Alors, on va parler un peu ce qui vous attend sur le mois de février. Tout d'abord, il y a le FAST, le Festival des films d'Asie du Sud transgressif, qui commence le 4 février et qui se termine le 12 février à Paris. Est-ce que quelqu'un veut présenter le festival? Julien?
Ce qui est intéressant dans ce festival parisien, c'est que ça met en lumière des cinématographies de pays dont on ne connaît pas trop forcément, genre style Bangladesh, Népal. Donc ça a un intérêt certain pour les amateurs de l'Asie du Sud-Est. Après, je ne connais pas trop la sélection.
Pour les cinéphiles curieux, disons.
Voilà, il y a les cinéphiles curieux après. Voilà. Non, mais on y va vraiment pour ceux qui tendent vers la curiosité et la découverte.
Parce qu'il y a des films de genre aussi cette année, il y a une nuit
voilà, tout à fait.
Fast and
Furious.
Frisson et sexe, non, il y a un truc comme ça.
Il y a une nuit frisson et sexe.
Voilà.
On y sera.
Il y a une nuit sur des films de genre et des films d'horreur.
Non, mais on peut que saluer ce nouveau festival qui a sa seconde édition. Je pense que c'est quand même une belle démarche et Istasia a raison de s'intéresser à ce festival. Quoi.
Et d'être un partenaire.
Évidemment, tant qu'à faire.
Le deuxième événement qu'on a sélectionné pour le mois de février, c'est l'absence complète de films asiatiques qui sortent en salle. Donc du coup, on est allé voir en projo La Belle et la Bête de Christophe Gans, parce que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un cinéaste qui s'intéressait à l'Asie. Et quand je dis « on », c'est surtout Nicolas. Qu'en as-tu pensé donc, du film de Gans?
Alors déjà, on peut quand même saluer la démarche. Alors c'est quand même l'un des films français les plus ambitieux, entre guillemets, au niveau technique qu'on a vu depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a flopé d'effets spéciaux. C'est vraiment une grosse production blockbuster à l'américaine, avec des effets spéciaux nickel, des grosses scènes. Mais le problème, c'est que bon, ça mixte un peu le film de Cocteau et un peu le film de Disney, mais sans forcément en prendre les qualités, quoi.
Dans les deux, je vois pas de grosses scènes hollywoodiennes.
Non, non, mais je veux dire, au niveau de la base de l'histoire, puisqu'à la base, c'est un conte qui date du Moyen-Âge, donc, et qui a été adapté pour je sais pas combien de supports. Et là,
Super
en fait...
Nintendo.
Hein?
Sur Super Nintendo.
C'est vrai? ce qui était beau dans la version de Cocteau, c'était toute cette poésie un peu désenchantée qu'on y retrouvait. Là, il n'y a rien, en fait, ça manque un peu d'âme. Et on ne retrouve pas aussi la fantaisie de l'adaptation de Disney, les objets qui parlent. Ils en reprennent un peu les éléments, il y a pas mal d'éléments fantastiques. Mais ça manque un peu d'âme, quoi. C'est une grosse production, certes très ambitieuse, certes honorable au niveau technique, mais qui manque un peu d'ambition.
Voilà. Comment sont les acteurs
Vincent Cassel est très bien. Bon, c'est un peu l'acteur un peu bestial, donc forcément c'était un peu l'acteur parfait pour incarner la bête. Par contre, Léa Seydoux, c'est du Léa Seydoux, quoi. Elle se fout pas à poil.
Oh, tiens.
Mais
elle a attention son profil d'amuse, quoi.
Bah, c'est même pas ça, c'est que
c'est un peu
fat, quoi. C'est un peu...
Après, c'est comment tu es dirigé, quoi. Je suppose pas être un bon directeur d'acteur en général.
Ouais, est-ce que c'est un mauvais acteur ou un mauvais acteur?
Mais bon, on peut quand même saluer parce que Christophe Gans, c'est un peu le mec qui essaye de faire quelque chose, enfin, ce qui lui plaît, quoi.
On défend beaucoup Christophe Gans parce qu'il est sympa, parce qu'il est généreux.
C'est un gros cinéphile, quoi.
Parce que c'est un gros cinéphile et qu'il a fait beaucoup de choses pour le cinéma asiatique, d'ailleurs en France. Mais en tant que cinéaste, il a pas fait un bon film, quoi, dans sa carrière. Et donc, il faudrait des fois se dire... Bon,
ça passe mal la revoyure, quoi.
Il est sympa, Christophe Gans, mais c'est un nanar, quoi. C'est un gros nanar.
Pour ça qu'on dit acteurs, il a un bon casting dans Le Pacte des Loups, et tout le monde joue mal, quoi.
D'ailleurs, pour le coup, HK Vidéo Métropolitaine édite Craig Freeman édition collector à l'occasion des sorties, des 10 ans de la sortie, en fait, du film.
C'est presque son meilleur film, Craig Freeman.
Moi, j'aime bien Silent Hill et Le Pacte des Loups aussi.
Oh, putain, non.
Et Craig Freeman. J'aime bien tous ces films, finalement.
C'est nanar, quand même.
On fera un podcast sur non, je pense qu'il le... Ça. Ça peut être intéressant. Et voir aussi ce qu'il a écrit sur le cinéma asiatique.
Ça, c'est intéressant.
Peut-être ce qui est devenu, enfin, ce qu'était HK Vidéo à l'époque, ce que c'est devenu. Il y a des trucs assez passionnants à évoquer. Mais on va pas le faire tout de suite, parce que lors de la sortie du film, on sera au FICA de Vesoul, donc qui a une programmation spéciale pour les 20 ans. que Julien, tu peux nous présenter.
Oui, donc le Fika de Vesoul qui se déroulera du 11 au 18 février dans la charmante ville très glaciale de Vesoul, avec une programmation toutefois très alléchante, avec un regard dédié sur le cinéma philippin. Donc après le cinéma indonésien que j'ai découvert, vraiment excellentissime, donc j'en attends. J'ai de sérieuses... j'espère que ça va être du même acabit en tout cas. Avec des longs métrages en compétition qui sont aussi très intéressants, qui ont été primés un petit partout dans le monde. Je pense à 10 minutes qui a été primé à Busan. Oui, Victor.
C'est vrai, c'est vrai.
On aura aussi une carte des 20 ans, donc comme tu disais en introduction, avec pas mal de chefs-d'œuvre historiques, avec du Kurosawa, du Kim Ki-duk. Qu'est-ce qu'on avait? Je crois qu'il y a l'Hirondelle d'Or aussi. Il y a pas mal de films, et il y a aussi des films qui, pour la première fois, seront projetés en restauration. Donc ce sera intéressant de les voir ça. Il y aura aussi un focus dans la partie francophonie avec le Vietnam.
Exactement.
Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est tout. Il y a évidemment la section documentaire. Et cette fois, on sera en nombre 3 du côté d'Istasia avec un gros programme.
Donc on refera de toute façon un podcast dédié au FICA de Zoom. Alors on va faire un dernier tour de table avec une question. Est-ce que vous avez un conseil cinématographique non asiatique d'un film qui peut être actuellement à l'affiche ou que vous avez découvert ce mois-ci au mois de janvier? Julien, vas-y.
Bon, je vais laisser le film qu'on a discuté avec Jérémy tout à l'heure, parce qu'il a aussi beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, je citerai R de Tobias Lindholm et de l'autre réalisateur dont je ne me souviens pas le nom, qui est en fait un ancien film qui date de 2010, donc par le réalisateur ou le scénariste de Borgen, je crois. Ouais. Voilà. Et qui est vraiment très bien, surtout par son ambiance, vraiment très pesante dans les prisons danoises, avec tout un trafic entre deux ailes de prison de drogue, où ils font passer la drogue par un certain système. Et c'est vraiment toute cette ambiance vraiment, vraiment extrêmement pesante et étouffante qui fait la force du film et que j'ai beaucoup aimé. Donc je le conseille à
Nicolas.
Non, je voulais juste rebondir un peu. J'ai bien aimé le film, je trouve que... Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais j'ai un problème avec le cinéaste danois, c'est qu'il je trouve qu'il manque un peu de personnalité. J'ai l'impression qu'ils reprennent un peu les grands classiques du cinéma danois sans forcément y apporter leurs pattes.
Ouais, je ne voyais pas comme ça l'argument. Enfin, je voyais plutôt qu'ils refaisaient un petit peu toujours le même film. Genre Nord-Ouest, c'était un petit peu la même chose.
Voilà, mais
c'est pour ça que c'est toujours de bons films sans être.
Anciens films un peu danois qui avaient du succès. Et voilà.
Mais j'aime beaucoup le cinéma nordique, c'est pour ça que je pense que ponctuellement c'est intéressant d'aller de ce côté cette cinématographie quoi. Mais il faudrait pas que ça fasse comme les blockbusters américains, même toutes les semaines.
Ouais, je trouvais qu'il y avait le côté multiculturel qu'on voit pas forcément d'habitude dans les sociétés danoises, qu'on voit bien dans le film, donc avec les deux communautés séparées, les musulmans des deux sections de... J'ai pas l'impression d'avoir vu ça tant de fois dans des films.
Dans Nord-Ouest, il y avait déjà ça. Enfin, l'un des personnages, c'est le même, d'ailleurs, c'est le même acteur qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a déjà ce côté-là, multiculturel un peu.
J'ai pas vu tant de fois que ça. C'est le même acteur que Hijacking aussi. Hein,
Hijacking.
Il reprend exactement le même acteur que les deux autres films des deux réalisateurs.
Moi, je voulais faire un tour de table rapide, mais si on est pendant 10 minutes chaque film, honnêtement, on va jamais finir.
Non, mais moi, on a trouvé 3 fois le même film, tu vois, peut-être que.
Jérémy, est-ce que tu as un autre film à...
Ouais, bah, je vais rester au Danemark aussi, avec Nymphomaniac de Lars von Trier, que j'ai trouvé, au-delà de la polémique qui est un peu provoquée par le réalisateur aussi, que j'ai trouvé vraiment magnifique dans son portrait de femme, tout simplement. C'est un beau portrait de femme. On n'a pas l'habitude d'aborder la sexualité féminine de cette manière-là au cinéma, et j'ai trouvé ça assez percutant et... très émouvant aussi, bizarrement. Et toute la relation, c'est un peu gros le complexe d'Oedipe, tout ça, mais ça fonctionne parce que tous les acteurs sont excellents. C'est un cinéma érudit et en même temps, techniquement, c'est assez. Tu t'aimes pas trop techniquement, toi, Nicolas. Tu avais eu des réserves, mais moi je trouve que ça fonctionne à plein régime.
Non, c'est même pas ça.
Il y a un petit côté, c'est très intelligent.
Mon gros problème, c'était en fait de passer de. Donc la jeune actrice, je sais plus comment elle s'appelle.
Moi non plus.
À Charlotte Gainsbourg, je trouve que c'est pas du tout la même personnalité. Enfin, je trouve qu'on passe de deux personnages complètement différents.
C'est un aspect grand roman, quoi. Elle raconte son histoire Ouais, parce que je suis devenu un raconte son histoire a posteriori à un mec, on sait pas trop qui c'est, etc. Je trouve ça, rien que cette structure en flashback, c'est intéressant. C'est super ambitieux quoi dans la forme. Après, j'aurais bien voulu avoir le film d'une traite.
Ouais, moi aussi. Ouais, c'est une grande frustration.
Voilà, non censuré. Limite, on censuré ou pas, non, mais
vraiment. Avec la première séquence, c'est une chef-d'œuvre de. Enfin, elle est magnifique, quoi. Le montage, l'ambiance sonore, enfin, le cadre.
Il y a des trucs, ouais, c'est super effrayant, en fait.
Ouais, c'est super effrayant aussi.
Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Christian Slater est dans son lit de mort et qu'il y a un silence silence de mort, et d'un coup il se met à hurler, mais c'est le truc qui m'a fait penser au plan de Laura Dern dans Inland Empire, voilà, le truc qui m'avait marqué pendant 15 ans quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est vraiment des plans super effrayants et c'est un film qui marque vraiment quoi.
J'avais beaucoup aimé aussi sa démarche scientifique d'expliquer les choses.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a tout un
côté ludique avec l'association à la pêche.
C'est ça, je dis, c'est un film érudit en même temps, et c'est un film ludique.
Et qui apporte un peu d'humour, justement.
Et voilà, c'est très drôle, c'est très drôle. C'est très drôle.
Flavien, t'as un conseil à
conseiller Nymphomaniaque. Moi, en fait, j'aurais conseillé, mais je sais pas, peut-être qu'il est encore en salle. C'est un film, je crois qu'il est belge, néerlandais. Danois, qui s'appelle Borgman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Il a été présenté à Cannes, il a beaucoup divisé.
Il a eu aucun prix et tout. Et vraiment, c'est très particulier, mais je conseille, quoi. C'est vraiment particulier dans le bon sens.
Il faut être ouvert d'esprit.
Ouvert d'esprit parce qu'on ne sait pas qui est ce personnage de Borgman qui s'introduit dans une famille un peu bourgeoise. plutôt aisée, une famille un peu qui vit dans une maison Ikea.
Ça
c'est
un théorème un peu, non, de Pasolini, je sais pas si.
Ouais, il y a un peu de ça, mais enfin voilà, c'est vraiment unique, c'est nordique. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour noir dedans, et qui fait passer plein de messages sous par rapport à la tolérance, à l'ouverture des autres, enfin des classes aisées vers les autres, vers les classes plus basses. Mais tout en mêlant un côté fantastique, mais dans un milieu complètement réel, en fait. Il n'y a pas vraiment d'artifice, d'effets spéciaux fantastiques hallucinants, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a bien marqué, quoi.
Ça laisse pas indifférent.
Ouais.
Marc, tu as un film à conseiller ?
Pas un film, mais un livre. William Friedkin a sorti ses mémoires il y a quelques mois, donc... ça permet de connaître un peu plus le travail de William Friedkin, donc qui est connu pour avoir tourné L'Exorciste et French Connection, et très récemment l'excellent Killer Joe. Donc c'est toujours... c'est très bien écrit, c'est assez drôle. On voit pas mal les coulisses d'Hollywood des années 60-70, et aussi le travail qu'effectuait Friedkin pour tourner ses films. Et très grand réalisateur et très bon livre.
Et je crois que Nicolas, tu avais quelque chose à rajouter comme conseil.
Moi, je voulais juste parler, c'est pas vraiment un conseil en fait, un appel à sortir le film Jodorowsky Dunes, qui est un documentaire sur ce qu'aurait dû être l'adaptation de Dune par Jodorowsky, qui était annoncé comme à l'époque comme ce qui aurait été le plus grand film de science-fiction de tous les temps, et qui a influencé après, même s'il ne s'est pas fait. Par l'intermédiaire de tout le travail qui a été fait sur ce film, ce qui a influencé des centaines de films de science-fiction qui sont sortis toutes les années suivantes. Donc voilà, c'est un super film, très drôle, parce que de toute façon, quand on écoute Jodorowsky parler, on se marre forcément. Et voilà, donc j'espère qu'un jour il sortira. Apparemment, c'est la femme de Mobius, donc Jean Giraud, qui met son veto, qui empêche la sortie du film. Donc Mobius, qui a participé à l'aspect esthétique du film, qui devait participer à l'aspect esthétique du film.
Il a fait tout le storyboard.
Donc, voilà. Donc j'espère qu'un jour il sortira. Je crois que c'est en ce moment en négociation pour une sortie américaine. Et j'espère que ce sera la même chose pour la France. Voilà.
Bien, quant à moi, je conseillerais. Un film qui s'appelle Rédemption de Miguel Gomez, qu'on a vu au Black Movie, et le prochain podcast sera consacré au Black Movie, et je vous expliquerai alors pourquoi je conseille ce film.
Il est sorti en novembre dernier en français.
En France.
Dans une salle. Ouais, dans une salle il est sorti.
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
très particulier.
J'aurais peut-être pour Spectacular Now, c'est un teen movie un peu mélange teen movie Sundance, qui est sorti d'ailleurs, qui a été primé à Sundance, là, qui est sorti en début janvier, là, qui est vraiment, vraiment bien. Quoi. C'est une espèce de mélange d'histoire à la Pygmalion avec un ado un peu populaire qui essaie de prendre en main une fille un peu sérieuse, un peu bêcheuse, et puis finalement, on voit le rapport qui s'inverse avec les thèmes un peu plombant sur l'alcoolisme chez les jeunes, chez les adolescents, et puis on voit un peu le rapport s'inverser entre les deux, c'est plutôt bien amené, ça évite pas mal de clichés, pas mal de rebondissements attendus, c'est vraiment bien, ouais. Je crois que c'est encore en salle en ce moment.
Moi je rajouterais juste quelque chose sur ce film qui a ouvert le débat, on va dire, dans son environnement, avec un coup de gueule de la productrice, ouais. Je crois. Qui reprochait le téléchargement illégal, parce que le film était disponible. En fait, il avait été distribué aux États-Unis, je crois, il y a 4-5 mois.
En mois d'août, c'était sorti.
Voilà, et puis maintenant, il a bénéficié d'une sortie française 6 ou 7 mois plus tard. Ouais. Donc, il est déjà disponible en téléchargement illégal sur Internet. Ouais. Et il y avait un gros coup de gueule de la productrice, comme quoi c'était vraiment une honte de la part des jeunes qui ne comprenaient pas, en fait, l'attrait des petits films indépendants qui sortent en salle, et que c'était vraiment un énorme coup de frein, le piratage illégal.
C'est pas des films comme ça qu'il faut télécharger, quoi, voilà.
On disait, ok, pour les blockbusters, de toute façon, ils font leur maille dans les produits dérivés, dans les goodies, dans tout ce qu'il faut, mais les petits films indépendants,
dans les entrées,
faut aller les voir.
Oui, les spectateurs sont à mettre en cause, mais il faut aussi mettre en cause ceux qui sortent les films, quoi, parce qu'ils mettent toujours 7 mois à sortir ça.
Il y a des raisons
pour lesquelles ça sort.
Parce que là, il y en a de plus en plus. Je prends juste un exemple, la suite de Tempête de Boulet Géant qui sort en dernier en France, alors qu'il est sorti cet été aux États-Unis.
C'est un problème systémique, voilà, c'est une
question. Il faudrait modifier ça.
Le premier volet n'avait pas marché en France, donc du coup, c'était une priorité, le Tempête de Boulet Géant.
Parce qu'aux États-Unis, ça avait été un...
Par exemple, pour The Spectacular Now, je crois que c'était 500 000 euros pour avoir les acquisitions des droits français pour la même date de sortie en US. Donc tu vois comment t'as gagné, quoi. Si tu perds de l'argent, si tu achètes les droits, quoi.
Arrêter de télécharger des petits films, télécharger des blockbusters. Et on parle de petits films la semaine prochaine avec l'édition pour
le podcast sur le. Il y a Fleur de Zou et Conte après
de Mizoguchi qui sont sortis. Depuis le 22 janvier.
Donc allez-y, très beau film.
See you, Space Cowboys.